Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à tous et à toutes, au micro Florence Westgaard. Cette semaine dans Escale, nous aborderons la question de l'éducation, une question primordiale pour le développement des pays. Une priorité essentielle au cœur de l'agenda des Nations Unies pour 2030 qui conditionne le succès des 17 objectifs de développement durable. Nous verrons comment les principaux acteurs se mobilisent pour une éducation de qualité inclusive et équitable, alors que le montant de l'aide allouée à l'éducation est en baisse pour la 6e année consécutive. Restez à l'écoute. Selon un récent rapport mondial de suivi sur l'éducation de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, l'aide à l'éducation stagne et ne va pas vers les pays qui en ont le plus besoin. Une aide qui demeure bien inférieure à ce qui serait nécessaire pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 4. Pour en savoir plus, nous avons joint Nicole Bella, statisticienne principale du rapport sur l'éducation à l'UNESCO.
Cette publication en date montre donc que l'aide, alors que l'aide totale a augmenté de 24%, l'aide qui va à l'éducation, c'est-à-dire l'aide consacrée à l'éducation, a eu tendance à stagner depuis 6 ans. C'est-à-dire que, au lendemain de la crise financière qu'a connue le monde, cette aide a fortement baissé. Mais on a vu qu'elle a eu tendance à reprendre, à augmenter de nouveau entre 2014 et 2015, puisqu'elle a augmenté de 4%. Pour atteindre 12 milliards de dollars en 2015. Mais malgré cette hausse, elle reste quand même inférieure de 4% à son niveau de 2010. Donc c'est pour ça que nous parlons de stagnation, quoi, en fait. Donc depuis la crise financière, on a vu que les pays donateurs ont eu tendance un peu à réduire un peu leur aide et que l'aide, dans ce contexte, n'est pas à la hauteur des engagements, parce que les pays eux-mêmes donateurs se sont engagés à aider les pays les plus pauvres à mettre en place leur politique éducative. Mais avec la crise qui est passée par là, ils ont eu tendance à baisser un peu cette aide-là. Pour ne donner qu'un exemple, on a des pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne qui sont les principaux contributeurs de l'aide à l'éducation de base. Or, ces pays, et c'est un sujet de préoccupation, ces deux pays on réduit les États-Unis de 11% et la Grande-Bretagne de 9% de l'aide que ces deux pays consacrent à l'éducation de base, quoi. Donc c'est vraiment un sujet de préoccupation, quoi.
Et donc vous parlez de la crise financière comme raison principale. Y a-t-il d'autres raisons de cette baisse?
C'est-à-dire qu'on a tendance à lier, et c'est toujours difficile de lier, de voir un phénomène de causalité dans les évolutions. On voit un peu que parallèlement à la crise financière, l'aide a baissé, quoi. Enfin, elle a eu tendance à stagner. Mais comme j'ai dit d'abord au début, l'aide totale a augmenté, C'est-à-dire que l'aide totale, tout secteur confondu, mais on a aussi vu que cette augmentation de l'aide totale, elle suit aussi le mouvement de la crise migratoire. C'est-à-dire qu'avec la crise migratoire que connaissent certains pays, une partie de l'aide a été utilisée justement pour faire face à cette crise financière. Mais ce qui est bien pour la question migratoire a également une conséquence négative, par exemple, pour l'éducation, quoi, puisque les pays ont eu tendance à prendre un peu dans leur aide totale. C'est-à-dire que les pays n'ont pas consacré des ressources supplémentaires. Ils ont plutôt eu tendance à ponctionner l'assiette commune pour s'occuper de la crise migratoire, ce qui fait que, par effet de miroir, l'aide qui est consacrée à l'éducation a eu tendance à baisser aussi, quoi. Donc, plutôt que de consacrer des fonds supplémentaires, les pays ont eu tendance à redistribuer un peu leur aide en faveur de certains secteurs, mais en défaveur de certains autres. Mais pour ce qui est de l'éducation, c'est vraiment un sujet de préoccupation, parce que, encore une fois, les pays se sont engagés à mettre en œuvre un agenda plutôt ambitieux qui a été adopté en 2015. Donc, et un des objectifs de cet agenda sur le développement durable, c'est l'objectif 4 qui est consacré à l'éducation, qui est très ambitieux, mais on s'aperçoit que parallèlement, les moyens qui sont mis en œuvre justement pour atteindre cet objectif crucial ne sont pas à la hauteur. Donc, les pays donateurs ont tendance à ne pas respecter leurs engagements, pour ce qui est de l'aide et de l'aide à l'éducation et à l'éducation de base, quoi. Et le papier qui a été publié montre également que l'aide ne va pas toujours aux pays, aux régions qui en ont le plus besoin. Par exemple, quand on prend l'exemple de l'Afrique subsaharienne, on s'aperçoit que bien que cette région représente plus de la moitié des enfants non scolarisés dans le monde, on s'aperçoit que l'aide à l'éducation de base qui est consacrée à cette région a fortement baissé, est passé de 29% en 2014 à 24% en 2015, quoi. Et donc, elle représente près de la moitié de ce qu'elle était en 2002, quoi. Donc, au fil du temps, les pays donateurs ont eu tendance à revoir un peu leurs priorités et souvent à se reconcentrer sur leurs prix carrés, quoi. Et pas toujours à prêter la plus grande attention aux pays qui en avaient le plus besoin, parce que les pays les plus pauvres sont justement ceux qui ont le plus besoin d'aide et sont justement ceux qui dépendent le plus de l'aide. Or, on s'aperçoit que ces pays à faible revenu sont également ceux vers lesquels l'aide ces dernières années a eu tendance à ne pas aller comme elle aurait dû, quoi. Et donc, c'est vraiment des sujets de préoccupation.
Et bien sûr, c'est prouvé que l'éducation est primordiale pour le développement d'un pays, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Ben oui. Mais donc, c'est-à-dire que maintenant qu'on a un agenda, et c'est vraiment la première fois dans l'histoire qu'on a un tel agenda qui montre que tout est lié. Donc l'éducation est vraiment au centre de cet agenda, puisque sans l'éducation, les autres objectifs vont être difficilement atteignables. Donc alors que l'éducation est au centre de cet agenda, on s'aperçoit qu'elle n'est pas toujours prise en compte comme elle devrait l'être par les pays qui continuent à avoir, au lieu d'avoir une approche holistique des choses, où il y a une synergie entre les différents secteurs, ils ont tendance à segmenter un peu leur vision des choses, quoi. Et donc, cette nouvelle publication tire encore une fois une sonnette d'alarme en disant que, voilà, quoi, on comprend que les pays eux-mêmes font face à des difficultés, mais dès lors que les engagements, des promesses sont faites, ils se doivent de les tenir, quoi. Parce que, encore une fois, le monde regarde ces pays-là, quoi. Donc, il faut qu'ils respectent leurs engagements.
Et donc, dernière question, Nicole Bella. Donc, que recommande l'UNESCO à ces pays donateurs et pour cette aide, justement, à l'éducation?
Donc, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'aide et puis il y a aussi la question des pays eux-mêmes qui doivent faire davantage eux-mêmes d'efforts. Parce que c'est vrai qu'il y a des pays qui sont très dépendants de l'aide, mais dans l'ensemble, on s'aperçoit que l'aide représente une petite partie de l'ensemble des dépenses consacrées à l'éducation. Donc les pays eux-mêmes qui consacrent pas déjà une part suffisante de leurs ressources domestiques à l'éducation doivent faire davantage d'efforts pour le faire. Et qui dit effort dit par exemple de revoir un peu leur politique fiscale pour mieux recouvrir l'impôt au niveau des pays. Et ça veut dire aussi que les pays doivent revoir la politique fiscale vis-à-vis des grands groupes internationaux. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de pays pauvres pour faire venir l'investissement. Je parlerai pas de dumping fiscal, mais en échange d'une politique fiscale très avantageuse, font venir des grands groupes qui souvent rapatrient chez eux les bénéfices qu'ils peuvent faire. Donc les pays, quelque part, vont automatiquement être perdants. Donc, ces pays doivent absolument revoir leur politique fiscale, justement, parce que pour augmenter leurs propres ressources et pas, justement, dans la mesure où on est dans un contexte d'une aide qui baisse, il faut justement ce travail sur eux-mêmes pour accroître leurs propres revenus. Et puis, les pays donateurs, encore une fois, le rapport montre dès lors qu'il y a des engagements qui sont pris, ces pays-là doivent, autant que faire se peut, remplir leurs engagements. Et surtout de ne pas utiliser l'aide à d'autres fins. C'est-à-dire que, par exemple, des pays comme la Grèce, l'Allemagne et l'Italie utilisent 20% de leur aide à la question migratoire. Donc, comme j'ai dit plus tôt, c'est une aide en moins pour l'éducation. Donc, s'ils doivent s'occuper de la question migratoire, il faut qu'ils le fassent en utilisant des ressources additionnelles, mais pas en ponctionnant sur une aide qui a déjà elle-même tendance à baisser, quoi. Mais cela dit, il y a quand même des raisons d'espérer, hein. Par exemple, quand on prend le partenariat mondial pour l'éducation, en anglais c'est le Global Partnership for Education, qui justement financent les pays par rapport à leur politique éducative pour les aider à atteindre leurs objectifs. Ce partenariat-là fait de plus en plus de choses, quoi. Par exemple, les décaissements de ce partenariat représentent désormais 22% de l'aide totale à l'éducation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et l'Afrique subsaharienne bénéficie de plus des trois quarts de cette aide du partenariat mondial pour l'éducation. Donc, il y a des raisons d'espérer. Il y a aussi le Education Cannot Wait, Éducation ne peut pas attendre, qui a été lancé l'année dernière et qui se donne pour but de collecter davantage de fonds pour aller justement à l'éducation, en particulier dans les zones d'urgence. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'aide totale à l'éducation, mais quand on regarde l'aide humanitaire, on s'aperçoit que la place accordée à l'éducation est encore infinitésimale, quoi. Par exemple, la part de l'éducation dans l'aide humanitaire, ce n'est que 2,7%, quoi. Il est bien vrai que c'est supérieur de 55% à ce qu'on a observé là, en 2014, mais ça reste quand même moindre. Il faut aussi se dire, avoir à l'esprit que plus de la moitié des demandes de financement pour l'éducation dans l'aide humanitaire ne sont pas satisfaites. Mais il y a ce nouveau programme d'éducation ne peut pas attendre, qui est une raison d'espérer que davantage de fonds vont être consacrés à l'éducation, encore une fois, pour permettre à cet objectif 4 de développement durable d'être atteint en 2030.
En effet, l'éducation ne peut pas attendre.
Oui, voilà. Et c'est maintenant que ça se passe. On ne peut pas attendre 2030.
Je dis bien, c'est 1 milliard d'êtres humains aujourd'hui dans le monde qui voient, qui n'ont pas accès à leur droit à l'éducation. C'est 263 millions d'enfants, de jeunes, mais c'est aussi plus de 775 millions d'adolescents et d'adultes, dont les 60% sont des femmes. Et c'est ça la réalité du monde. C'est 1 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'éducation.
Pour la rapporteure spéciale sur le droit à l'éducation, Kumbu Bolt-Bari, ancienne ministre de l'éducation du Burkina Faso, l'accès à l'éducation est l'un des plus grands défis dans le monde aujourd'hui. Lors d'une réunion de haut niveau à New York sur la campagne pour les objectifs de développement durable et l'accès universel à l'éducation, elle a expliqué que c'est non seulement un problème d'accès, mais aussi de qualité et de gouvernance du système éducatif. Et donc, une approche holistique du système éducatif est nécessaire.
Quand on dit vision holistique du système éducatif, ça veut dire qu'on doit tenir compte à la fois de l'éducation formelle, mais aussi de l'éducation non formelle et de l'éducation informelle. Ça veut dire qu'on doit tenir compte de l'éducation préscolaire, primaire, secondaire, de l'enseignement supérieur, mais aussi on doit tenir compte de la formation professionnelle, mais on doit aussi tenir compte de la recherche au niveau des universités pour alimenter le système éducatif. Quand on parle de vision holistique, ça veut dire qu'on doit tenir compte à la fois des décideurs de haut niveau, on doit aussi tenir compte des gens qui sont au niveau de la base, les parents, les éducateurs, les enseignants, des apprenants, la communauté elle-même, les municipalités, mais aussi les ministres des finances, mais aussi les parlements. Vous voyez, c'est toute la diversité sociale dont il faut absolument et fondamentalement en tenir compte. Mais aussi tous les autres secteurs, qu'ils soient agriculture, élevage, environnement, il faut absolument qu'on en tienne compte. Et c'est ça la vision holistique du système éducatif. Et quand on dit vision holistique, c'est aussi au niveau du financement, quand on parle de gouvernance. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir le partenariat global pour l'éducation, le JPE. Mais nous avons aussi à côté d'autres initiatives. L'éducation ne peut pas attendre.
Tout enfant doit aller à l'école.
Tout enfant doit aller à l'éducation.
Béaba.
Béaba.
Et c'est avec Kumbu Bolt-Bari, ancienne ministre de l'éducation du Burkina Faso, que se referme ce magazine Escale, un magazine préparé et présenté par Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.